Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Et nous sommes donc le lundi 22 janvier 2024, en direct donc Jean-Louis pour cette chronique du groupe Fred Zeller. Alors le groupe Fred Zeller, l'actualité du groupe Fred Zeller, eh bien ça, on va commencer par le banquet qui s'est tenu hier à Bourou, le banquet Tête de Veau, banquet pour donc célébrer la chute de la monarchie absolue. Nous étions 25 convives à partager ce banquet. Nous avons écouté le discours prononcé par notre camarade et ami Chantal Lesouple. Et nous avons écouté également plein d'autres interventions, puisque le repas, le banquet, a été ponctué d'interventions des différents participants. Et puis également, au rythme de l'orgue de Barbarie de Jean, qui était venu donc avec son orgue pour nous accompagner toute une série de chansons. Et puis, bien évidemment, de très nombreuses discussions se sont tenues au cours du repas et après le repas, avec donc l'ensemble donc des participants. Et comme si nous avons fêté au niveau où il se doit, donc, cet anniversaire de la chute de la monarchie absolue. Alors, je vais vous lire tout simplement le discours qu'a prononcé notre camarade Chantal à l'occasion donc de ce banquet Tête de Veau. Amis, citoyennes, citoyens, compagnons, camarades, les libres penseurs de Dordogne du groupe Fred Zeller vous souhaitent la bienvenue à ce banquet républicain dont la tradition remonte à 1848. Non, nous ne sommes pas pour la peine de mort, encore moins pour la décapitation. Nous sommes ici pour célébrer la fin d'un régime totalitaire, pour célébrer ce jour du 21 janvier 1793 où le peuple, prenant en main sa destinée, a rejeté tout à la fois le despotisme et à tout jamais le soi-disant droit divin. Il y a quand même eu quelques reculs, il faut le dire. Le Directoire, le Consulat, l'Empire, la Restauration, le Second Empire. Mais en même temps, le processus révolutionnaire creusait toujours, telle une vieille taupe qui refait surface de temps à autre. Et ce fut 1830, 1848, 1871, 1905, la loi de séparation des Églises et de l'État, 1944, 1968, etc. Aujourd'hui comme hier, la restauration est à l'œuvre, tandis que la vieille taupe creuse toujours et refait surface comme il y a quelques mois pour rejeter la réforme des retraites. Le monarque d'aujourd'hui a un droit de veto, il s'appelle 49 terres et consort en fait toutes les institutions de la Ve République. Son pouvoir n'est pas de droit divin, mais il est allé chercher le couronnement du Latran, veut réparer le lien avec l'Église catholique et s'y emploie tous les jours un peu plus. Il vient de déclarer, lors de ses vœux à la nation, que l'école catholique a autant de valeur à ses yeux que la laïque républicaine. C'est qu'il lui faut préparer la jeunesse à la restauration du despotisme et à la guerre qui vient. Pour cela, il faut lui apprendre, si possible, à saluer le goupillon pour mieux saluer le drapeau, l'uniforme et chanter la Marseillaise. La France glorieuse et les Français pure souche d'abord. Le chauvinisme et le racisme des discours du monarque n'ont d'égal que l'internationalisme du pouvoir financier qu'il sert. Ce dernier s'octroie le droit d'accumuler du capital par tous les moyens, au-dessus des lois, des nations, jusqu'au massacre de populations. C'est la seule raison qui conduit Macron à justifier l'écrasement du peuple palestinien tout en versant quelques larmes de crocodile. Mais pour le peuple, que le monarque voudrait anesthésier à coups de cocorico et de flammes olympiques, c'est la mise au pas, les restrictions, la répression et l'alignement comme un seul homme sous une seule doctrine d'État. Mais la vieille taupe creuse, le régime est tenu, minoritaire, en crise permanente, et il est contraint à des contorsions sordides pour se maintenir, comme on l'a vu avec la loi Asile-Immigration. L'impasse est là, ou plutôt l'alternative. Ou le retour au despotisme obligatoirement cimenté à l'eau bénite, ou la parole au peuple reprenant en main ses propres affaires. L'heure est à choisir son camp. Le conseil départemental, le petit doigt sur la couture du pantalon, et devançant la loi antidémocratique dite séparatisme, a voté à l'unanimité une charte qui met au pas les associations. Ou encore, récemment, la maire de Saint-Astier participe escalité à une cérémonie cléricale pour l'investiture du nouveau curé. Non. N'est-ce pas encore elle qui désigne le curé, mais peut-être en rêve-t-elle? Quant à nous, libres penseurs, nous nous prononçons pour une constituante souveraine, pour un gouvernement du peuple, par le peuple. dans notre Assemblée générale annuelle du 6 janvier dernier, donc l'Assemblée générale du groupe Fretzeller, nous nous sommes posé ces questions. Qu'est-ce qu'une nation ? Qu'est-ce qu'un gouvernement ? Un gouvernement peut-il laisser le pouvoir au peuple ? Une constitution peut-elle garantir que le pouvoir reste aux mains du peuple ? Comment cela peut-il se construire ? À quelle échelle ? En partant de quoi ? Quelle république peut construire l'école des savoirs et de l'esprit critique, de l'égalité des chances, sans dogme patronal, religieux ou politique ? Alors, je m'adresse à vous, mes chers amis, citoyens, citoyennes, compagnons, camarades, pour y réfléchir. Chacun retrouvera dans cette diversité que je viens d'énoncer, diversité qui est celle de la libre pensée, mais aussi des penseurs libres que vous êtes tous. La libre pensée n'offre pas de programme politique. Elle offre une méthode, apprendre, comprendre pour agir. Alors autant dire que nous avons tous du pain sur la planche. Et ça tombe bien, parce que la tête de veau sauce gribiche est bien connue pour booster les cerveaux. Alors entre deux plats, si l'un ou l'une d'entre vous veut s'exprimer, quel ou une île n'hésite pas à le faire haut et fort pour toute l'Assemblée. Tête de veau et échange d'idées, voilà un cocktail vivifiant. Et maintenant, je vous souhaite un excellent appétit et un bon repas. Sans oublier tout de même, ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Voilà, donc c'est Chantal qui a prononcé ce discours à l'ensemble des convives, aux 25 convives qui étaient présents, et qui ont donc passé, je le crois, après les réflexions qui ont été faites, un très très bon moment. Voilà, alors maintenant, je vous propose donc de revenir sur toute une série d'actualités, et ça ne manque pas. Alors, on peut commencer par un article qui est paru sur Mediapart, dont le titre est « Via des dons défiscalisés, de l'argent public français finance l'armée israélienne ». Des associations françaises continuent de proposer de défiscaliser des dons destinés à soutenir des soldats israéliens, alors que le ministère de l'Économie et des Finances a précisé en novembre 2023 que c'était illégal. Ce sont des appels aux dons comme il en existe des centaines, à l'approche de la fin de l'année des déclarations d'impôts. Jusqu'au 31 décembre 2023, faites un don et bénéficiez de réductions fiscales en 2024, proclame l'un d'entre eux. Sauf qu'ils n'invitent pas à soutenir Handicap International ou la Croix-Rouge, mais les soldats de l'armée israélienne, engagés depuis octobre 2023 dans des opérations militaires qui ont donné lieu, selon une rapporteuse des Nations Unies, à un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. En France, les dons à des associations peuvent faire l'objet, moyennant certaines conditions, de réduction d'impôts à hauteur de 66%. Pour 100 euros versés sous forme de dons, un particulier peut en déduire 66 de ses impôts et donc ne payer effectivement que 34 euros. Ce dispositif coûte à l'État, chaque année, plusieurs milliards d'euros. 3,7 milliards en 2018, selon la Cour des comptes. Une générosité étatique motivée par la volonté de faire vivre le tissu associatif français, mais qui est parfois détourné de son objet. Depuis octobre 2023 et la guerre déclenchée par Israël en représailles des massacres commis par le Hamas, des associations proposent de faire défiscaliser des dons pour soutenir, entre guillemets, les soldats israéliens. Elles ne leur procurent pas de matériel militaire, assurent-elles, mais des équipements de confort, tels que des repas ou des couvertures. Est-ce légal ? Non. A indiqué le ministère de l'Économie et des Finances le 14 novembre à nos confrères et consoeurs de Check News, Libération, qui ont consacré deux articles à ce sujet. Le ministère le confirme à Mediapart. Un don à une association française dont l'objet serait de venir en aide aux soldats de l'armée étrangère ne respecterait pas les critères permettant de bénéficier du don. De la remise donc sur les impôts du don, soit dans le jargon de Bercy, la réduction d'impôts sur les dons aux associations. Malgré cette mise en garde du ministère, formulée dès le mois de novembre et confirmée depuis, plusieurs associations de soutien aux militaires israéliens ont continué de proposer avec insistance des déductions fiscales et de délivrer les formulaires CERFA permettant de procéder à ces déductions. Leurs activités sont diverses. La livraison de repas chauds à des militaires, la distribution à ces derniers de packs contenant couvertures, serviettes, savon, gel douche, chips et chewing-gum, ou encore l'organisation de séances de kinésithérapie pour les soldats au plus près des zones de combat. Mais la promesse de ristourne fiscale reste la même, don déductible des impôts, CERFA instantané ou recevez votre CERFA immédiatement, proclament toutes ces organisations au mépris de la loi française. L'une de ces associations, Libifrance, a mené en décembre une campagne particulièrement intense d'appel aux dons pour, citation, « soutenir nos chers et valeureux Ayalim ». Elle a promis une réduction fiscale sur leurs impôts 2023 à ses donateurs à 4 reprises sur sa page Facebook intitulée « Libye France pour Tsahal », poste daté du 23 décembre, du 26 décembre, puis du 31 décembre à 2 reprises. Dans plusieurs publications de la page Facebook de sa présidente, mais également dans une série d'emails à ses donateurs potentiels, envoyés entre le 24 et le 31 décembre, que nous avons pu consulter, dit donc cet article de Mediapart. Dans ses messages sur les réseaux sociaux, l'organisation promet à ses sponsors que 100% de leurs dons sera reversé directement pour les soldats. Le fait de, citation, de délivrer sciemment des documents tels que certificats reçus, état, facture ou attestation permettant à un contribuable d'obtenir indûment une réduction d'impôt et, fin de citation, est interdit par l'article 1740A du Code général des impôts et passible d'une amende. Mediapart a pourtant pu obtenir un formulaire CERFA de Libye France émis le 16 janvier 2023. L'association y, citation, certifie sur l'honneur que les dons et versements qu'elle reçoit ouvrent droit à la réduction d'impôts prévue à l'article 200, donc du Code général des impôts français, ce qui est manifestement faux. L'association a-t-elle pu ignorer que sa campagne était illégale ? Cela paraît très improbable. D'abord parce que les déclarations du ministère de l'Économie et des Finances précisant que ces défiscalisations étaient illégales ont été largement reprises dans la presse française à l'automne. Ensuite, car une sénatrice, Nathalie Goulet, Union Centriste, membre de la Commission des Finances du Sénat, a directement interpellé Libye France sur sa publicité mensongère à propos des déductions fiscales dès le 20 octobre 2023. Dans 2 emails envoyés depuis son adresse professionnelle du Sénat, que Mediapart a pu consulter, Nathalie Goulet rappelle à l'association que sa campagne de dons, citation, n'a pas le droit à la déduction fiscale, n'est pas déductible d'impôts. Et joint un lien donc vers une réponse du secrétariat d'État chargé du budget et des comptes publics formulée en 2016 à ce sujet. Elle n'a jamais obtenu de réponse. Interrogée par courriel par Mediapart, l'association n'a pas répondu à nos questions. Évidemment. À l'exception d'un membre, tout de même, de la famille éloignée de sa présidente qui indique que Libye France va refaire sa communication, voire en boîte noire. Les sommes en jeu sont substantielles. Selon les calculs de Mediapart, Libye France a récolté via la seule plateforme allodon.fr 457 000 euros de dons depuis octobre 2023. Ce chiffre, obtenu en additionnant les près de 2000 versements enregistrés par la plateforme entre le 9 octobre 2023 et le 16 janvier 2024, est un minimum. Il n'inclut pas les dons via la plateforme Helloasso ni ceux via PayPal, également proposés par l'association. Si tous les donateurs passés par Allodon ont appliqué les réductions d'impôts promises par Libye France à hauteur de 66%, cela signifie que l'État, et donc le contribuable français, a dépensé malgré lui 300 000 euros de soutien à des soldats israéliens. Une aberration qui interroge d'autant plus vu le contexte au Proche-Orient. Selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, plus de 24 000 Palestiniens ou palestiniennes, auraient été tuées par les forces armées israéliennes depuis le 7 octobre à la suite des massacres de l'organisation islamiste. Les bombardements israéliens ont détruit des écoles, des camps de déplacés et des hôpitaux. La rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, dénonce un nettoyage ethnique et estime qu'il existe un risque de génocide des Palestiniens à Gaza. Le ministère de l'Économie et des Finances refuse de détailler les mesures prises pour sanctionner les associations qui proposeraient cette déduction illégale. Interrogé par Mediapart, il ne souhaite pas commenter le cas d'associations particulières comme Libye France au nom du secret fiscal. Mais il refuse également de préciser combien de contrôles fiscaux sont menés chaque année sur des associations afin de vérifier qu'elles sont dans les règles concernant la possibilité de déduction fiscale. Or, c'est probablement là que le bât blesse. Il n'existe en France aucun contrôle a priori concernant ces déductions. Les associations n'ont besoin d'aucun agrément préalable pour les proposer à leurs donateurs. Et les contrôles a posteriori sont, de l'avis général, insuffisants. Citation. Les contrôles de l'administration fiscale envers les associations bénéficiaires ou les donateurs sont peu nombreux et peu approfondis et les amendes pour non-respect du rescrit sont peu dissuasives, constatait la Cour des comptes en 2021. Pour la sénatrice Nathalie Goulet, qui retrace dans un livre paru en 2022 ses tentatives successives pour faire changer la loi à ce sujet, la solution pourrait passer par la diminution du seuil à partir duquel une association doit recourir à un commissaire aux comptes. Il est aujourd'hui fixé à 153 000 euros de dons défiscalisables, ou par des contrôles a priori, en rendant obligatoire l'acquisition par ces associations d'un agrément. Il ne faudra sans doute pas compter sur les plateformes de collecte de dons pour aider à mieux contrôler les éventuels abus. Contacté par Mediapart, la plateforme de collecte Allodon, qui héberge plusieurs des collectes à destination des soldats israéliens, dont celle de Libye-France, rejette toute responsabilité. Ils disent « La responsabilité d'émettre les reçus CERFA revient à chaque association utilisant notre plateforme », plaide le site, qui assure ne jouer qu'un rôle de facilitateur informatique. Allodon n'applique pas de politique de contrôle de la légalité des déductions fiscales, assume ses équipes. Voilà, donc ça, c'était l'article publié sur Mediapart. Et donc, on voit que ça pose quand même ces problèmes de dons dont bénéficient les soldats israéliens, de dons défiscalisés. Ça pose quand même un très gros problème. Alors, là encore, on va continuer là sur les problèmes liés au massacre qui se passe actuellement à Gaza, avec une enquête là, qui a été publiée sur Mediapart, toujours, qui constate que sur Instagram et Facebook, les voix pro-palestiniennes sont censurées. Il y a toute une série de choses qui se passent d'ailleurs sur ce plan-là, puisque une athlète qui était membre donc, de l'équipe d'organisation des Jeux a été exclue de cette organisation parce qu'elle a, sur son site Facebook, je crois, publié des photos de la France sur laquelle elle avait appliqué des réductions de territoires à l'image de la réduction des territoires palestiniens depuis 1947. Et ça a été considéré comme un appui au Hamas. Il faut quand même le faire. Et elle a été exclue donc de l'organisation des Jeux, de l'organisation française donc des Jeux. Alors, reprenons donc cette enquête de Mediapart. Une censure systémique des contenus pro-palestiniens est à l'œuvre sur les réseaux sociaux du groupe Meta, dénonce Human Rights Watch et plusieurs ONG. Rima Hassan en a fait les frais cette semaine. Rima Hassan ne compte plus les messages alarmés qu'elle reçoit sur Instagram de la part de ses abonnés, qui n'arrivent pas à la taguer sur une publication ou à partager sa story. À la tête de l'Observatoire des camps de réfugiés, cette juriste franco-palestinienne partage quotidiennement des ressources sur la politique d'apartheid menée par Israël envers la population palestinienne. Depuis qu'elle relaie des informations sur les bombardements à Gaza, elle témoigne de plusieurs publications supprimées pour non-respect des règles de la communauté, ce sont des citations, du réseau social. L'expérience de Rima Hassan rejoint celle dévoilée par le millier de témoignages récoltés dans 60 pays par Human Rights Watch dans un rapport publié le 21 décembre dernier. L'ONG y dénonce, citation, « une censure systémique des contenus pro-palestiniens sur les réseaux sociaux » et épingle l'entreprise Meta, propriétaire de Facebook et d'Instagram. Avant même la publication du rapport, Meta avait réfuté les accusations de modération biaisée. L'entreprise y rappelait que ses politiques de modération étaient conçues, citation, « pour permettre à chacun de s'exprimer tout en assurant la sécurité des utilisateurs ». En mai 2021, Meta avait pourtant déjà été pointé du doigt par donc Human Rights et également 17 autres organisations pour censure injustifiée de journalistes et de défenseurs et défenseuses des droits palestiniens lors des menaces d'expulsion par la police israélienne des habitants du quartier Sheikh Jarrah à l'est de Jérusalem. À la suite d'un audit indépendant sur la question, Meta s'était engagé à revoir ses politiques de modération. Mais la censure aurait empiré depuis, donc toujours selon Human Rights Watch. La politique de Facebook en matière d'antiterrorisme expliquerait en partie cette censure massive. Dans le but de « prévenir la radicalisation en Europe », citation, après la vague d'attentats revendiqués par l'État islamique, l'Union européenne a sommé les plateformes numériques de, citation, « retirer dans l'heure des publications à caractère terroriste ». Meta s'applique ainsi à restreindre la visibilité des contenus postés par ceux qu'elle nomme des, citation, « individus et organisations dangereuses ». Dans le sillage de l'attaque du 7 octobre 2023, Meta déclare vouloir supprimer, et c'est une citation, « les éloges et le soutien substantiel dont les membres du Hamas bénéficient, tout en continuant à autoriser les contenus journalistiques liés aux droits humains ou les discussions neutres ». Entre le 7 et le 10 octobre, 800 000 publications ont été supprimées selon ces critères, soit 7 fois plus que d'habitude. Mais selon Jaal Aboukalter, responsable plaidoyer d'une organisation, donc Centre Arabe pour les médias sociaux, une ONG de défense donc des droits numériques des Palestiniens basée à Haïfa en Israël. Cette politique antiterroriste s'applique de manière à, citation, « recouvrir injustement une multitude de discours pro-palestiniens ». Au mois d'octobre 2023, l'agence de presse palestinienne en ligne Jérusalem 24 a vu plusieurs publications en arabe supprimées sur Instagram pour avoir mentionné le terme Hamas dans une analyse du contexte à Gaza. L'organisation de défense des droits numériques, Access Now, note que les publications incluant le mot « shahid », qui signifie « martyr » en arabe, sont systématiquement supprimées. C'est un terme amplement utilisé par les Palestiniens pour qui chaque personne tuée par Israël est considérée comme un martyr. Pour Meta, c'est une incitation au terrorisme, précise Marwa Fatawa, responsable Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'ONG. C'est aussi, d'après Meta, le mot générant le plus de suppression de contenu sur toutes les plateformes. Face à cet état de fait, Rima Hassan interpelle Instagram mardi 16 janvier. Le magazine du Monde vient de publier sur le réseau social un portrait et photo d'elle, posant devant la peinture murale d'un drapeau palestinien. Dans un commentaire, la juriste écrit « beau drapeau » qu'elle accompagne d'une émoticône représentant le drapeau palestinien et remarque peu après qu'il a été effacé. « Je suis en colère », s'exprime-t-elle dans une story. Plusieurs autres personnes commentent à sa suite avec la même émoticône et voient à leur tour leur commentaire disparaître rapidement. En octobre 2023, Andy Stone, porte-parole de Meta, a confirmé auprès du site états-unien The Intercept que l'entreprise cachait les commentaires contenant cette émoticône dans certains contextes jugés offensants. Il cite le même cadre de restriction touchant les individus et organisations dangereuses. C'est une citation également. L'entreprise refuse cependant de donner des précisions et de dire exactement qui elle catégorise comme individus et organisations dangereuses. Mais une liste de 4000 personnes identifiées comme telles par Meta et publiée par The Intercept en 2011 montre qu'elle cible de manière disproportionnée les communautés musulmanes du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. Un poids et deux mesures inacceptables pour Jaal Aboukalter, qui pointe que la liste de Meta n'inclut en revanche aucun groupe de colons israéliens violents organisés en Cisjordanie. La modération algorithmique de Meta ne suffit pas à expliquer les suppressions massives de contenus pro-palestiniens. Le rapport de Human Rights dénonce aussi la complaisance de suppression de contenus formulée par la cyberunité israélienne, organe qui dépend du ministère de la Justice israélien, et précise que depuis le 7 octobre 2023, la cyberunité israélienne a déposé 21 000 demandes de suppression de contenu auprès de Meta. L'entreprise aurait, selon un représentant de la cyberunité, accepté plus de 92% de ces demandes. La cyberunité reste opaque sur fond des publications qu'elle souhaite supprimer. Mais un an après sa création, en 2015, la ministre de la Justice israélienne de l'époque avait déclaré que 95% des demandes de suppression avaient été satisfaites. Elle se félicitait du fait que les plateformes coopéraient dans l'écrasante majorité des cas et s'engageait à continuer d'exercer cette pression sur les réseaux sociaux. Pour l'Organisation palestinienne de défense des droits humains, interrogée par le média états-unien American Prospect à ce sujet, les enjeux de sécurité sont facilement mobilisés par Israël pour faire taire l'opposition politique et les revendications des droits des Palestiniens. Au vu des différents éléments avancés par Human Rights et les autres ONG de défense des droits numériques, Meta semble agir délibérément au détriment des voix palestiniennes. Citation : il est raisonnable de supposer que Meta n'est pas neutre dans ce conflit, ce qui est problématique car ça fait de la plateforme un outil politique de poids, selon le chercheur Olivier Edge, excusez-moi de la prononciation de son nom qui est assez compliqué, spécialiste des politiques des plateformes numériques. Selon lui, on retrouve sur les réseaux sociaux la même asymétrie de pouvoir entre l'État et d'Israël et les Palestiniens qu'on connaît au niveau diplomatique ou militaire. Tous les jours, j'ai peur que mon compte saute, confirme Rima Hassan, c'est le plus angoissant car c'est mon seul moyen d'expression. En raison de l'impossibilité pour les médias internationaux de se rendre à Gaza et au vu des plus de 80 journalistes palestiniens tués par l'armée israélienne depuis le début de l'offensive, les Palestiniens les comptent amplement sur les réseaux sociaux pour visibiliser leur vécu. Excédé face aux importantes entraves à leur expression en ligne, Rima Hassan et plusieurs autres activistes appellent à créer un réseau alternatif à Instagram. Voilà, donc c'est un article que je soumets à la réflexion de chacune de nos auditrices auditeurs, parce que là, effectivement, on est quand même face à un problème de propagande organisée par un acteur qui est extrêmement important dans le monde donc, des réseaux sociaux. Alors, je vous propose maintenant d'écouter une chanson dont le titre est « Il n'y a que d'honnêtes gens dans notre gouvernement ». Je vous rassure, ce n'est pas une chanson qui vient d'être écrite. Elle date de quelques dizaines d'années, puisque l'interprète, c'est Monteus, donc bien connu dans ce style de chanson. Et je vous invite à écouter les paroles et à la méditer. Toute relation avec la situation actuelle n'est pas fortuite.
Il y a des honnêtes gens dans le gouvernement, répertoire Monteus. Des honnêtes gens dans le gouvernement, après mon sonnage, la peine en France. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement, nous sommes bien tranquilles pour notre argent. Voyez-en pour les congrégations, ceux qui ont fait la liquidation, ils n'ont volé que 10 petits millions. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement, après mon scandale, la peine en France. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement, aussi le travailleur est très content. Voyez donc les retraites qu'on vient de voter, 6 sous par jour, quelle fraternité, et 5 000 pour les anciens députés. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement, après mon scandale, la peine en France. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement, ici tout se fait très loyalement. Voyez donc pour les élections, jamais de vol, jamais de corruption. Il n'y a que les urnes qui sont à double fond. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement, après mon scandale, la veine en France. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement, c'est un vrai bonheur pour les indigents. Voyez donc pour les inondations, ce que l'État a reçu de millions. Mais on oublie faire la distribution. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement, après mon scandale, la peine en France. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement, aussi les agents suivent le mouvement. Ils ont tellement l'idée de l'honneur, qu'ils ne veulent pas toucher un voleur. Mais le 1er mai assomme les travailleurs. Y'a que des honnêtes gens dans le gouvernement.
Voilà. Alors, pour conclure cette chronique, je voudrais simplement rappeler que hier matin, Périgueux s'est tenue une manifestation pour le retrait de la loi asile-immigration et que ça a été un gros succès, plus de 500 participants, comme ça a été le cas dans de très nombreuses villes du pays, hier ou même dès samedi dans certains cas, des milliers de participants à ces manifestations. Et je vous invite bien évidemment à participer, à vous joindre au procès des initiatives sur cette question, donc d'obtenir le retrait de la loi asile-immigration. Et je vous propose de nous retrouver dans une semaine pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un socle de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouvez sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.
Qui la couvre, elle tient,